les hiérarchies spirituelles et leurs reflets dans le monde physique. 8e conférence, au soir du 17 avril 1909. Le chapitre que nous abordons aujourd'hui dans notre étude des entités supérieures et de leur rapport avec notre univers, notre système solaire, ne peut que paraître des plus troublants pour l'homme moderne qui tire ses connaissances concernant le monde et les conditions qui y règnent de la vulgarisation scientifique d'aujourd'hui. Car il va être question de choses dont nos savants ne peuvent se faire aucune idée. Mais la réciproque n'est pas vraie. Celui qui se tient sur le terrain de l'occultisme peut parfaitement comprendre, de son point de vue, les faits établis par la science moderne. Vous ne trouverez jamais de contradiction entre ce qui est dit dans ces conférences et les faits en question. Mais l'harmonie n'est pas toujours facile à établir entre les deux points de vue. Pourtant, ceux d'entre vous qui auront la patience de poursuivre leur étude verront comment les choses finissent par faire un tout. Ce même sujet a déjà été traité ailleurs, par exemple dans les cycles de Stuttgart, de Leipzig, mais d'un autre point de vue. Là aussi, celui qui n'examine les choses que superficiellement pourrait découvrir des contradictions. Cela vient uniquement de ce que ma tâche ne consiste pas à exposer dans ces conférences des théories fondées sur la spéculation, mais des faits qui se révèlent à la clairvoyance. Or, ces faits se présentent autrement si on les regarde d'un côté, ensuite d'un autre. Un arbre vu de différents côtés offre des aspects différents, bien que ce soit le même arbre. Il en est de même des faits spirituels lorsqu'ils sont éclairés de différents côtés. Certes, il n'est pas difficile d'échafauder en partant de quelques concepts abstraits tout un système très cohérent. Mais nous travaillons en allant du bas vers le haut. L'unité harmonieuse doit apparaître ainsi comme couronnant le tout. En particulier, il faut toujours examiner dans quel sens et dans quel but une chose est dite. Quand on lit par exemple dans un petit ouvrage de vulgarisation que l'air, le gaz, doit avoir sur Jupiter la même consistance que le miel ou le goudron, et que du point de vue de la science spirituelle on taxe cette idée de grotesque, on peut s'entendre répondre. Ne savez-vous donc pas qu'actuellement on peut produire de l'air ayant cette consistance? Certes, c'est là un fait scientifiquement établi. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, ce n'est pas cette ligne que suivent nos considérations. Ce que la science appelle air peut évidemment être condensé, de même qu'en se congelant, l'eau peut devenir aussi dure qu'une pierre. Mais il s'agit de savoir si l'on considère les choses d'après leur action dans la vie, ou bien, à la façon de la science actuelle, comme des substances mortes. Que la glace soit de l'eau solidifiée, c'est évident. Mais que dirait celui auquel on conseillerait de faire tourner un moulin avec de la glace? Ce qui importe, ce n'est pas cette abstraction. La glace, c'est de l'eau. L'important, c'est de comprendre l'univers en activité. Pour cela, les points de vue qui s'imposent sont tout à fait différents de celui auquel on se place pour parler de la métamorphose purement matérielle qu'est cette condensation. Pas plus qu'on ne saurait faire marcher un moulin avec de la glace, on ne saurait respirer de l'air ayant la consistance du miel. C'est cela qui compte pour la connaissance spirituelle. Pour celle-ci, les globes célestes ne sont pas seulement des corps matériels de telle ou telle grandeur qui se meuvent dans l'espace universel, ainsi que les voies à la mythologie astronomique moderne. Elle les étudie dans leur existence vivante, spirituelle et psychique, c'est-à-dire dans leur intégralité. C'est donc ainsi que nous allons considérer ce qu'on peut appeler la genèse de chacun de ces globes. Prenons tout d'abord comme exemple l'apparition de l'ancien Saturne, dont nous avons vu qu'il est le point de départ de toute notre évolution. Je vous ai dit qu'à ses débuts, Saturne égalait en grandeur notre système solaire tout entier. Ou plutôt, ce qu'au sens large, nous appelons l'ancien Saturne, était à son stade initial à peu près aussi vaste que notre actuel système planétaire. Toutefois, il ne faudrait pas se le représenter comme un simple globe matériel. Nous savons que ne s'y trouvait aucun des états de la matière qu'on appelle aujourd'hui solide, liquide et gaz, qu'il se composait uniquement de feu, de chaleur. Imaginons que ce cercle représente le globe de chaleur des origines. Nous avons dit aussi, vous vous en souvenez, que là où ce globe saturnien évolue en direction du globe solaire, les entités qui constituent le zodiaque sont apparues dans l'espace environnant. Le zodiaque existait pourtant déjà autour de l'ancien Saturne, bien qu'il fût alors moins dense que pendant la période solaire. Représentons-nous donc comme agissant dans l'entourage de l'ancien Saturne les trônes, les chérubins, les séraphins, qui sont en réalité pour nous le zodiaque au sens de l'esprit. Cette ligne figure pour nous le zodiaque spirituel. On peut se demander si cette conception correspond à la dénomination actuelle des signes zodiacaux. C'est en effet le cas, les conférences suivantes le montreront. Mais voici comment il faut vous représenter la chose. Supposez que vous soyez sur cet ancien Saturne et que, levant le bras, vous indiquiez du doigt la région qui est au-dessus de vous. Vous auriez au-dessus d'elle le domaine de certains trônes, chérubins et séraphins. Si vous faisiez de même après vous être déplacé, vous indiqueriez d'autres trônes, chérubins et séraphins. Car ces trois groupes d'entités font la ronde autour de l'ancien Saturne. Les êtres hiérarchiques ne sont pas tous semblables et se distinguent très nettement les uns des autres. Ils sont individualisés de sorte qu'en visant des régions différentes, on désigne des entités différentes. Pour désigner les unes et les autres d'entre elles, on se sert du point de repère que constituent les constellations. C'est une marque. Nous disons dans telle direction se trouvent les trônes, chérubins et séraphins, connus sous le nom de Gémeaux. Dans telle autre, ceux qui sont connus sous le nom de Lion, de Cancer, etc. Ce sont là des signes indicatifs, pour ainsi dire, des bornes, qui marque la direction où se trouvent certaines entités. Ces constellations ne sont pas que cela, mais il faut voir avant tout qu'il s'agit d'entités spirituelles quand nous parlons du zodiaque. Ce sont d'abord les trônes qui exercent leur action sur le globe de feu que nous appelons l'ancien Saturne. Ils sont si avancés dans leur évolution qu'ils peuvent répandre leur propre substance. Il déverse petit à petit cette substance de chaleur dans la masse saturnienne, ce qui donne naissance, tout autour de ce globe, à des formations que nous avons appelées œufs de chaleur. Cette expression a quelque chose de grotesque, mais il s'agit réellement de formes ovoïdes. Vous pourriez maintenant demander ce qu'il en est de cette substance calorique et si elle existait déjà auparavant. Ce qui existait déjà, c'est une sorte de feu cosmique neutre qui se confondait en somme avec l'espace cosmique. Je pourrais donc tout aussi bien dire « Auparavant, n'existait que l'espace qui a été borné, délimité en quelque sorte. » À travers la surface a été instillé ce qu'on peut nommer la substance calorique de l'ancien Saturne. Au moment où cette substance pénètre dans le globe saturnien, les entités concernées interviennent de deux côtés. Nous avons déjà vu qu'à l'intérieur de cet espace agissent les esprits de la forme, du mouvement et de la sagesse, alors que les trônes, chérubins et séraphins, exercent leur action du dehors. Il y a ainsi collaboration entre ces diverses entités. Nous avons vu, dans la première conférence, qu'on peut distinguer le feu intérieur, psychique, que l'on ressent en soi, dans la chaleur de l'âme, et le feu qui est extérieurement perceptible, C'est entre les deux que se trouve la chaleur neutre. Celle-ci se trouve en réalité à l'intérieur de cette forme ovoïde. Au-dessus se répand la chaleur psychique, qui de l'extérieur semble rayonner vers l'intérieur, mais en se réfrénant. C'est comme si cette chaleur psychique rayonnante se retenait de pénétrer dans la chaleur neutre enfermée dans cet espace. De l'intérieur de celui-ci, la chaleur réellement perceptible est refoulée, de sorte que l'œuf de chaleur se trouve pris entre deux courants de chaleur, un courant psychique extérieur et, à l'intérieur, un courant de chaleur qui serait seul perceptible par les sens. Alors, sous l'action conjuguée de ces deux sortes de chaleur, chacun des œufs de chaleur entre en rotation. Il décrit un cercle et s'expose ainsi à l'action successive des différents groupes de trônes, chérubins et séraphins qui sont alentour. Quelque chose de très remarquable se passe alors. Chacun de ces œufs finit par revenir à son point de départ, là où il a été produit. Il s'y arrête, ne peut pas aller plus loin. Tels sont les faits que révèle l'observation spirituelle. La formation de ces œufs ne dure qu'un certain temps. Puis, elle cesse, et il n'en apparaît plus. Lorsqu'ils sont tous arrêtés, ils tombent les uns sur les autres et finissent par n'en plus former qu'un seul. Les œufs entrent ainsi en repos là même où ils ont été créés à l'origine. Et, du moment qu'ils ne s'en créent plus de nouveau, ils finissent par s'assembler. Il y a ainsi formation d'un globe qui ne se constitue d'ailleurs qu'au bout d'un certain temps. Il est fait de la matière calorique la plus dense. C'est à juste titre qu'on peut l'appeler Saturne, car il se trouve à l'emplacement du Saturne actuel. Et comme tout se répète d'une certaine façon, le même processus a eu lieu au début de l'évolution terrestre. Le Saturne actuel est né lui aussi du fait qu'il a été arrêté en un certain point. Bien que ce n'ait pas été exactement celui où s'est arrêté l'ancien Saturne, car il y a eu un décalage, le processus de sa formation a bien été le même. Un petit globe saturnien est donc issu du grand Saturne primitif grâce à la collaboration des entités cosmiques qui font partie des hiérarchies. Considérons maintenant le point où tous les œufs se sont arrêtés sur le Saturne originel. Voici ce que la sagesse des origines disait au sujet de ce point. C'est sur Saturne qu'est née la première ébauche du corps physique humain. Sous sa toute première forme, celui-ci était fait de chaleur. Et dans cette chaleur étaient préfigurés en germe tous les organes qui se sont développés ultérieurement. Là où s'est arrêté le premier œuf mis en mouvement, s'est formée la première ébauche de l'organe qui, lorsqu'il s'arrête, immobilise, met au repos l'organisme physique tout entier, le cœur. La première ébauche du cœur a donc eu pour point de départ la première impulsion dynamique. Mais ce qui deviendra le cœur n'est apparu que lorsque le mouvement s'est arrêté. C'est pourquoi le cœur est l'organe qui met au repos toutes les fonctions du corps physique quand il cesse de battre. Or, dans le langage des initiés d'autrefois, on donnait un nom bien déterminé à chaque partie du corps humain. Le cœur était appelé lion. Lorsqu'on demandait quelle était la région du zodiaque d'où provenait le premier élément du cœur humain, la sagesse primordiale désignait les séraphins, chérubins et trônes qui sont en rapport avec la région du lion. Comme s'il se projetait lui-même dans l'espace universel, l'homme donnait ainsi à une région du zodiaque le nom de lion qu'il avait l'habitude d'attribuer à une partie de son organisme. C'est de cette façon que les correspondances se sont établies. Il en est de même pour toutes les autres parties du corps humain. Elles ont toutes été formées par le zodiaque. le cœur, s'est ébauché dans la région du lion. La cage thoracique, faite pour le protéger, était appelée la cuirasse. Celle-ci a été ébauchée avant que le cœur fût fermé, dans une région qui précédait celle du cœur et à laquelle on a donné par la suite le nom d'un animal pourvu par la nature d'une cuirasse, l'écrevisse. En réalité, la région du zodiaque devrait s'appeler cuirasse, l'écrevisse, ayant une cuirasse, a donné son nom à cette région. Krebs, en français cancer. Toutes les autres régions du zodiaque ont été nommées suivant le même principe. En fait, c'est le corps humain projeté dans l'espace cosmique qui a fourni les noms servant à désigner les différentes régions du cercle zodiacal. Quoi qu'il ne soit pas toujours facile de découvrir l'intention qui a présidé à cette désignation. Les noms ne nous sont pas toujours parvenus en ligne droite. Il faut souvent remonter au sens primitif du terme pour y voir clair. Laissons de côté pour le moment la façon dont l'ancien Saturne disparaît, dont il se dissout. Nous allons voir comment l'évolution se poursuit après le pralaya. Car, après la disparition de la formation saturnienne, il en apparaît une nouvelle, et une nouvelle évolution a lieu. Ce qui se passe tout d'abord, c'est une répétition de ce qui s'était passé sur Saturne. Puis, après que toute l'existence saturnienne s'est répétée de cette façon, la nouvelle évolution a commencé, celle que nous connaissons sous le nom d'Ancien Soleil. Ce ne sont plus maintenant les trônes qui se sacrifient, mais d'autres entités spirituelles, celles que nous appelons domination ou esprit de la sagesse. Les trônes sont des entités plus puissantes. Ils ont pu donner de leur propre substance, leur nature de chaleur, celle de l'ancien Saturne. Les dominations ne peuvent plus faire offrande que d'un corps éthérique qui est plus subtil. L'homme possède déjà le germe de son corps physique. Les esprits de la sagesse y ajoutent maintenant un corps éthérique. Et cela se passe pour ainsi dire au sein d'un second espace à l'intérieur du premier. Je dessine un second cercle. L'immense sphère originelle de l'ancien Saturne s'est comprimée et de ce fait, elle est devenue plus dense. Cela permet qu'il n'y ait pas seulement sur l'ancien Soleil de la substance calorique, mais celle-ci s'étant condensée, une substance gazeuse aérienne. De la périphérie, les dominations collaborent maintenant avec les autres entités précédemment nommées. Et à l'intérieur de cette sphère solaire, il n'y a plus que les esprits de la forme et du mouvement. Tous les autres agissent de l'extérieur. Puis, tout comme sur l'ancien Saturne, il se produit ceci. Certains courants se forment. Ils sont dus aux esprits agissant à l'extérieur, dont font maintenant partie les dominations. Ce qui fait que ces courants sont un peu plus denses que ceux produits précédemment par les trônes. La masse qui est à l'intérieur se resserre, et entre les deux sortes de courants se forment les unes après les autres des boules de vapeur. Le globe solaire se distingue du globe saturnien constitué uniquement de substances caloriques. Avec tous les êtres qui en font partie, il est imprégné d'éthérique. Sur Saturne, les mouvements étaient en quelque sorte dirigés du dehors. Bien qu'il soit aussi dense qu'un gaz, le globe solaire est saturé de vie. Le globe entier vit. C'est un être doué de vie interne. Alors que Saturne était doué de mouvement, de mobilité interne, jusqu'au moment où son mouvement a été arrêté par le lion, Jupiter, on peut l'appeler ainsi car le Jupiter qui est actuellement dans le ciel est la répétition d'une partie du Soleil qui s'en est détachée. Jupiter est doué de vitalité interne. Les boules qui tournent sur l'ancien Soleil sont donc de grands êtres vivants. Mais au lieu d'apparaître dans la région du lion, c'est d'une autre région qu'elles naissent, celle qui porte le nom d'aigle. C'est de là que vient l'impulsion du globe solaire. cet être vivant dans l'espace cosmique. Après qu'une boule vivante a fait un tour complet, elle revient dans la région de l'aigle. Mais autre chose se produit alors. La même influence qui l'a appelée à vivre provoque sa mort. Elle est tuée. L'une après l'autre, toutes les boules sont tuées. Et quand il n'en est plus de nouvelles, la vie du soleil est également terminée. Cette vie consiste donc en ceci, qu'en ce point de nouvelles boules naissent et qu'elles finissent là où l'impulsion venant de l'espace cosmique les tue. Ce coup mortel venant de l'espace universel frappe le soleil. On l'a ressenti comme étant dû au scorpion. La région du scorpion est celle qui tue. Là se trouve la constellation qui éveille à la vie la matière morte, l'aigle, mais dont aussi émanent les forces de mort du scorpion. On peut donc dire que dans la région du lion se trouvent les forces zodiacales qui ont fixé, immobilisé les premiers rudiments de la vie physique humaine, et que de la région du scorpion proviennent celles qui peuvent tuer cette vie. Nous verrons plus tard quel rapport il y a entre la situation telle qu'elle était alors et celle d'aujourd'hui. Un voile épais, une épaisse maya, a été jeté sur les conditions régnant à l'origine. Maintenant que nous avons compris le sens de ces appellations et l'ensemble du processus cosmique, nous n'avons pas besoin d'entrer dans autant de détails. Il nous faut pourtant revenir sur un certain point. Qu'est donc un Saturne ? C'est un globe de chaleur. Vous seriez tout à fait dans l'erreur si, en regardant cet astre, vous pensiez pouvoir le comparer à d'autres, tels que Jupiter ou Mars, par exemple. Ce que vous voyez dans le ciel, ce n'est qu'un espace chaud. Et si vous pouvez le voir, c'est parce qu'il vous apparaît à travers un espace éclairé. Quel est l'aspect d'un objet non lumineux vu à travers un espace éclairé ? Il a l'air bleu. Il est facile de s'en rendre compte en regardant la flamme d'une bougie. Elle est bleue au centre et entourée d'une sorte d'auréole lumineuse. L'obscurité, vue à travers la lumière, paraît toujours bleue. J'ai conscience de ce que je dis. Je sais que je risque d'être accusé de dire une absurdité du point de vue de l'optique actuelle. Mais il se trouve pourtant à nouveau que cette absurdité est une vérité. Les physiciens d'aujourd'hui ne savent pas pourquoi tout l'espace céleste paraît bleu. S'il en est ainsi, c'est parce qu'en réalité, il est obscur, noir, mais qu'on le voit à travers un espace éclairé. Tout ce qui est obscur, vu à travers un espace éclairé, semble bleu. De là vient l'aspect bleuâtre de Saturne. Ce que nous disons ici s'accorde pleinement avec les faits scientifiques, mais non avec les théories, les fantasmes qu'on élabore à leur sujet. Cela nous entraînerait trop loin si je vous expliquais, de ce point de vue, comment s'est formé ce qu'on appelle l'anneau de Saturne. Tout Saturne se compose de trois couches de chaleur. L'une est neutre, l'autre psychique, la troisième perceptible physiquement. Lorsqu'on regarde ces couches à travers l'espace éclairé, on a l'illusion de voir un globe gazeux, entouré d'une sorte d'anneau fait de poussière. Ce n'est là qu'un phénomène d'optique. Aujourd'hui encore, Saturne est un corps composé uniquement de substances caloriques. Bien entendu, de telles choses ne peuvent être exposées que dans un contexte comme le nôtre. Ailleurs, on ne pourrait les comprendre. Est Saturne tout corps céleste fait de chaleur, ce qui explique tous les phénomènes qui s'y passent. Jupiter est toujours en réalité une étape solaire, et il est essentiellement composé de chaleur et de gaz. C'est également le cas du Jupiter actuel, qui est une répétition de l'ancien Jupiter, quoique les conditions de mouvement et d'espace aient naturellement changé, et que le Jupiter actuel n'occupe pas exactement le même emplacement que le précédent. Nous en arrivons maintenant à Mars, que nous pouvons expliquer de la même manière. Il faudrait se le représenter comme un grand globe gazeux qui s'est condensé par refroidissement jusqu'à la consistance d'un liquide. Du milieu aqueux très fluide se détache en un point une boule liquide condensée, et toutes celles qui naissent ensuite finissent par s'arrêter. Mais alors que sur Saturne, le mouvement de rotation est arrêté par le lion, et sur Jupiter, la mort provoquée par le scorpion, les boules aqueuses de Mars s'arrêtent aussi, bien que la chose se passe d'une façon un peu différente. Le Mars actuel est donc une répétition de l'ancienne Lune. Son orbite limite l'espace autrefois occupé par celle-ci. C'est la partie de la Lune qui est restée vivante. L'autre partie, c'est notre Lune, qui n'est qu'une scorie. Le pôle opposé est resté vivant et s'est maintenu dans le Mars actuel. Celui-ci correspond au troisième état d'évolution de notre système planétaire, celui de l'ancienne Lune. C'est donc essentiellement un corps liquide. Or, c'est sur cette ancienne Lune, ou cet ancien Mars, comme on voudra, qu'a été incorporé à l'homme un corps astral, c'est-à-dire sa première forme de conscience. Le corps de l'homme était alors constitué de la substance liquide de Mars, ou de l'ancienne Lune. Tandis que sur la Terre, il est fait de substances terrestres, il était fait, sur l'ancienne Lune, de feu, d'air et d'eau. Du fait de ce qu'il comportait de plus dense, on aurait pu le considérer comme un homme aquatique, ce qu'il était devenu en particulier par l'adjonction d'un corps astral. Ce n'était pas encore une individualité humaine, un moi, mais seulement un être doué d'astralité. Cela grâce à une impulsion reçue d'une certaine région du zodiaque. Cette impulsion a mis en branle son mouvement de rotation et l'a fait revenir au point d'où il était parti. Elle venait de la région qu'on appelle le Verseau, Wassermann, l'homme d'eau. C'est au Verseau que, sur l'ancienne Lune ou ancien Mars, l'homme doit d'avoir reçu la conscience après que se fut accompli un seul circuit. Nous arrivons maintenant à la phase Terre, au quatrième état d'évolution cosmique. Les trois premiers états se répètent tout d'abord, c'est-à-dire qu'un Saturne se forme, puis un Soleil qui donne naissance à Jupiter, puis une Lune qui donne naissance à Mars. Enfin apparaît la Terre, dont se sépare le Soleil, et la scorie qui constitue la Lune actuelle. Vous savez que l'homme a reçu le premier germe du moi à l'époque lémurienne, où la Lune s'est séparée de la Terre. Cela n'a pu se faire que grâce à une nouvelle impulsion venant de la périphérie, qui a provoqué un mouvement de rotation. Après qu'une première rotation a eu lieu, ce qui avait reçu l'impulsion en question a été assez mûr pour absorber un moi sous son premier aspect. Tout cela s'est passé à l'ère lémurienne, en provenance de l'endroit du zodiaque qu'on appelle aujourd'hui le taureau. À l'époque où ces noms ont été choisis, on avait encore un sentiment très imagé et très concret de ces choses. Les noms proviennent surtout des mystères égyptiens et chaldéens, et la signification réelle de ces désignations n'est connue aujourd'hui que dans les véritables écoles d'initiation. Le tout premier germe du moi s'exprime par la parole, par le son parlé. Toute formation de sonorité, tout phénomène vocal a un rapport tout à fait particulier, sur lequel nous ne nous étendrons pas ici, mais que connaît tout occultiste. Avec le phénomène de la reproduction, ce qu'on peut déduire du fait que chez le jeune homme, la voix mue au moment de la puberté. Il y a là un rapport caché. Or, tout ce qui tient à ses facultés, à ses processus, était considéré autrefois comme constituant chez l'homme sa nature taureau. De là vient la désignation du signe zodiacal qui a, pour la Terre, la même importance que le lion pour Saturne, le scorpion pour Jupiter, le Verseau pour Mars. L'époque égyptienne a été celle de la troisième civilisation post-atlantéenne. La première étant celle de l'Inde ancienne, la seconde celle de la Perse primitive. Or, ainsi que nous l'avons souvent fait remarquer, Il y a des correspondances entre ces civilisations post-atlantéennes et les grandes phases de l'évolution terrestre. L'ère lémurienne fut la troisième de ces phases. Aussi, la doctrine secrète des Égyptiens était-elle, pour l'essentiel, le reflet spirituel des événements qui avaient eu lieu pendant cette ère. Ce qui s'était alors passé, les prêtres des mystères égyptiens le savaient mieux que quiconque, car cela se reflétait dans la civilisation tout à fait particulière de l'Égypte, d'où le rapport de cette civilisation avec le signe du taureau, le culte du taureau en général. Il n'est pas facile, vous le voyez, de faire connaître les véritables faits qui se sont déroulés lors de la formation des grands corps célestes. Car les astres, comment naissent-ils? Nos Saturne, Jupiter, Mars, etc. proviennent en fin de compte du fait qu'à l'origine se sont formées des coupes. Elles subissent l'une après l'autre la mort. Et dès que ne se produisent plus de nouvelles formes, les boules qui constituent les coupes s'assemblent en un seul corps, à la périphérie. Tout corps céleste tel que Saturne, Jupiter, Mars est dû à la présence, au commencement, d'une sorte de coupe. Celle-ci, du fait que les boules se sont rassemblées, est devenue une formation densifiée, l'astre visible qui apparaît dans l'espace céleste. Nous avons vu qu'il ne s'agit pas d'un processus mécanique, tel que le suppose la théorie de Kant et Laplace, mais de la création vivante, par les hiérarchies spirituelles, des formations que nous voyons aujourd'hui sous l'aspect d'astres tels que Saturne, Jupiter et Mars.